Richard en parle, au 93.3.
Je me suis posé une question récemment qui va comme suit. À quoi ça sert un directeur général d'un hôpital? Qu'est-ce que ça fait dans la vie au salaire que c'est payé? Pourquoi je me suis demandé ça? Parce que le docteur Gaétan Barrette, c'est le président de la Fédération des médecins spécialistes, puis une coupelle d'experts avec lui, je pense qu'il était une dizaine, là, pas plus. Ils ont fait la tournée des hôpitaux du Québec. Voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'on opère plus souvent. Plus, c'est important, là. Et ils ont réussi. Apparemment, on opère 10 % de plus actuellement dans les hôpitaux au Québec. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Ces experts-là en tournée, ils n'ont pas resté 3 mois dans chaque hôpital, là. Ils rentraient, puis ils jasaient avec le monde. Pourquoi vous opérez pas plus? Et là, ils se faisaient dire, on manque d'outils. Ah, vous manquez les outils à 4-5 millions, là, les grosses salles. Non, on n'a plus de scalpel. OK, vous avez plus de... Non, il manque de petits outils stérilisés. Fait que des fois, on annule des opérations, on n'a pas... OK. Autre raison? Ah oui, docteur Untel arrive en retard tout le temps. 1 heure en retard. Ah bon, d'accord. Autre raison. Ah, ben là, de temps en temps, il manque d'infirmières, puis là, tu savais comment c'est, les auxiliaires, on peut pas les prendre, le syndicat n'aime pas ça quand... OK. Bref, toutes des petites affaires de même que ce groupe d'experts-là a corrigé dans certains cas, puis là, il opère plus. Alors, bonne nouvelle, mais la question que j'ai posée, puis j'en ai jasé avec le docteur Barrette, mais ça fait que 5-10 personnes, là, faites la tournée des hôpitaux, puis ça opère 10 % de plus. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Si les boss de Cogeco à Montréal descendent au 93 un matin, puis en 4-5 jours, là, ils font en sorte que nos codes d'écoute augmentent de 10 % et nos ventes de 10 % Jean-Paul Lemire est dehors. Là, il va dire Jean-Paul, mais là, au fond.
Michel Lorrain aussi.
Michel Lorrain aussi. Moi, je pense que ça lève les pattes. Ça arrivera pas, on a des bons boss. Mais je me suis dit, les directeurs généraux des hôpitaux, ils sont pas aperçus qu'un médecin arrive en retard, ils sont pas aperçus qu'il manquait de scalpel, ils sont payés pourquoi? Que se passe-t-il? Mon prochain invité, depuis tantôt qui est là, puis il dit pas de questions, puis il a hâte de parler, fait que je suis content. Il s'appelle Jean-Luc Tremblay. On le surnomme parfois le Patch Adams de l'administration. C'est l'ancien directeur général de l'hôpital de Rouyn-Noranda qui est cité, même avant même qu'il soit ministre de la Santé, Yves Bolduc en parlait comme d'un modèle. Alors, il a été là longtemps, puis ça a été une histoire à succès. Depuis, il est devenu conférencier à succès également. Il nous disait tantôt qu'il est même en train de faire le tour du monde. C'est en train de dépasser le Québec.
Avec un beau teint, là.
Et il est l'auteur d'un best-seller également, 7e réédition, réimpression, qui s'appelle La performance par le plaisir. Monsieur Jean-Luc Tremblay, bon matin.
Bon matin.
Ça vient de parler, j'aime ça quand les invités ont
Non, mais je trouve ça tellement, je trouve ça tellement, là, important ce que tu dis ce matin. La raison pour laquelle, entre autres, que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner dans les hôpitaux, c'est que, par rapport aux médecins, c'est que les DG, les directeurs généraux, n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir.
Ils sont boss, mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir.
Écoute bien. Oui. Le réseau de la santé, là, ça marche de la façon suivante. Je vais te faire une analogie. Supposons, par exemple, qu'on aurait une route à faire qui partirait de la Gaspésie qui s'en irait à Ottawa. Et là, on dirait aux ingénieurs, vous autres, les ingénieurs, vous allez déterminer le tracé. Vous allez déterminer le nombre de sorties, le nombre d'entrées, le nombre de ponts, la largeur du chemin, l'épaisseur du chemin, tous les sous-contracteurs qui vont faire le travail. Vous allez nous dire quand est-ce que ça va être fini, puis nous autres, on va payer la facture.
Okay.
Et non seulement ça, mais quand le chemin va être terminé, on va l'entretenir, puis on va continuer à payer la facture, puis on vous demandera pas de compte. Savais-tu ça que l'année dernière, là, au Québec, il y a eu au-delà de 47 millions de réclamations à la Régie de l'assurance maladie. Sur 47 millions, il y en a eu exactement 35 000 qui ont été vérifiés. Et attention, les vérifications qui ont été faites, c'est les suivantes. C'est-à-dire qu'on a vérifié, est-ce que Sylvain Bouchard, telle date, tel jour et telle heure, a été voir tel médecin? On ne vérifie pas la pertinence de l'acte.
Il y a 47 millions de chick-a-chick par année au Québec, c'est-à-dire de médecins qui passent la petite carte dans l'appareil pour réclamer un acte médical. Sur les 47 millions, le gouvernement vérifie 35 000.
Exactement. Et là, puis il faut faire la nuance. Là. On ne vérifie pas la pertinence de l'acte.
On vérifie juste qu'il y a bel et bien eu le patient dans le bureau à tel moment.
Exactement. Alors, actuellement, là, le budget de la province, là, au niveau des affaires sociales, de la santé, c'est 45 % dans le cadre d'un budget équilibré. Là, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand on va être rendu à 50 % 55 % 60 % il y a un problème majeur.
Est-ce que, mais là, faut que je pose la question, parce qu'elle s'impose avec ce que vous venez de me dire. Selon vous, Puis on ne mettra pas tout le monde dans le même panier, mais est-ce qu'il y a des médecins qui surfacturent au Québec? Mmh.
Écoutez, moi, là, je ne veux pas porter de jugement sur la qualité professionnelle des médecins et sur l'honnêteté des médecins. Hein? Sauf qu'il faut quand même réaliser une chose, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'a pas de contrôle.
Il n'y a pas de compte à rendre.
Non, et l'autre affaire, il n'y a pas ce principe de subordination. Hein? Dans une organisation, théoriquement, il y a toujours ce principe de subordination. C'est-à-dire que vous autres ici, vous avez des patrons.
Oui.
Si ça fait pas, le patron est arrivé ici et dit, ah, regarde, le Sylvain, là, il y a comme un problème, il y a un dérapage, le José, moi, je pense que telle affaire. Mm. Mais dans le réseau de la santé, là, quand, comme DG, tu commences à interpeller des médecins, qu'est-ce que tu te fais dire? Ça, c'est de l'ingérence.
C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir.
Non.
Donc, un médecin qui arrive en retard, comme admettons dans votre hôpital, vous apprenez qu'à chaque jour, il y a quasiment une opération de moins parce que le docteur un tel arrive en retard. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Votre exemple, là, il est tout à fait pertinent parce que moi, j'ai vécu ça. Par exemple, 7h30, toute l'équipe, là, supposons les salles d'op, ils sont prêtes. La salle d'op numéro 1, par exemple, tout le monde est là, le chirurgien est là, l'anesthésiste n'est pas là. Il arrive 3/4 d'heure en retard. Ou bien donc, c'est l'inverse. Ou bien donc, tout simplement, l'anesthésiste est là, puis le chirurgien n'est pas là. Écoutez bien. Et donc là, la cédule opératoire était supposée de commencer, supposant à 8h30. Puis était supposée de finir, je dis n'importe quoi, à 4h.
Attends.
Là, l'anesthésiste arrive à 1h en retard. Qu'est-ce qui arrive?
Temps supplémentaire.
Qui paye le temps supplémentaire? C'est l'hôpital qui paye le temps supplémentaire.
Parce que là, vous allez dépasser le 4h, ça, c'est sûr que vous n'aurez pas fini votre journée.
Et la profession de médecin, c'est la seule profession où, à quelque part, on fournit à peu près tous les équipements, on fournit le personnel, on fournit l'encadrement, on fournit même le bureau. Il y a un nombre impressionnant de médecins qui n'ont même pas de bureau. Hein? Ils sont dans les hôpitaux.
Oui.
Bon. Et finalement, curieusement, on n'est pas capable d'intervenir de façon pointue. Dans un hôpital, il y a deux personnes théoriquement là, qui peuvent intervenir. Il y a le DSP, hein, le directeur des services professionnels, qui est un médecin, le boss des médecins. Puis il y a le chef de département. Or, si vous n'avez pas un directeur des services professionnels qui a du coffre, qui lui est centré vraiment sur l'argent, le moindrement, sur la performance,
oui.
Je regrette, là, je vais vous dire, il n'y en a pas de contrôle dans l'hôpital sur l'activité médicale comme telle.
C'est l'anarchie en matière, sauf si le DSP, le directeur des services professionnels, qui lui-même est un médecin.
Mm.
Donc, si lui met ses culottes envers ses collègues puis tout, sinon, là, oubliez ça, il n'y a rien à faire.
Écoutez, ou les chefs de département. Hein, dans chacun des départements, il y a un chef. Là, c'est la même affaire.
Mais y a-t-il le problème les médecins, il en manque tellement que là, ils ont le gros bout du bâton dans le fond?
Non, mais dans les faits, ils ont toujours eu le gros bout du bâton. Je veux juste finir ce que je partage pour vous dire. Là. Au niveau du chef des départements, c'est exactement la même chose. Le chef des départements, s'il y a une préoccupation plutôt clinique qu'administrative, ben je regrette là, le contrôle là, de l'acte médical, le type d'acte, la durée des actes, la durée de séjour, il n'y a pas d'emprise sur ça. Donc, méchant problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Hein? Ben, il y en a plusieurs solutions. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait d'abord, moi je pense, donner une enveloppe budgétaire à chacun des centres hospitaliers qui correspond à ce qui actuellement est payé par la régie de l'assurance maladie. C'est-à-dire que les hôpitaux n'auraient pas forcément à gérer ça, ce serait géré quand même par la régie, sauf qu'on pourrait dire, voici par exemple l'hôpital L'Enfant Jésus,
oui.
Toi pour tes médecins dans l'année, là, t'as tant de millions. Hein? Je veux dire, il y a le budget de la régie, le budget total de la province qu'on divise par région, par établissement. Donc moi, là, chez nous, je dis n'importe quoi, j'ai supposons un budget de 200 millions pour les médecins. 200 millions pour les médecins, un médecin veut venir chez nous, moi, je dis au médecin, écoute, je regrette, là, moi, là, dans mes activités professionnelles, je peux pas te prendre, là, mon budget est rendu au maximum. Donc ça obligerait effectivement les médecins à aller à des endroits où, effectivement, il y a des sommes qui sont disponibles, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Sauf que la journée, moi, je trouve ça bon, comme idée, mais tantôt, José faisait allusion à la rareté puis au gros bout du bâton. Quand on sait que la moitié des diplômés de McGill s'en vont déjà en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ils sont tellement rares que le moindrement que vous allez passer une réforme qui leur enlève un peu de pouvoir, ils vont sacrer leur camp.
Oui, mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Il y a 21% des étudiants de McGill qui s'en vont à l'extérieur. Et un étudiant en médecine coûte entre 150 000 et 200 000. Ça a-tu du bon sens? Ben non, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je pense qu'il faudrait faire, cette catégorie de professionnels qui sont vraiment des personnes gâtées par la société. T'sais, on va se dire les vraies affaires, là. Des médecins là qui restent à logement, j'en connais pas tellement. Hein. Des médecins là vont faire entre 150 000 minimum et les spécialistes peut-être 700 000. Moi, je pense que quand une société paie une formation qui coûte entre 150 et 200 000, on attache notre monde un certain temps. On dit, regarde mon chum, tu rentres en médecine, c'est pas compliqué. Tu
peux je l'ai suggéré, ça, mais on m'a donné un argument. Docteur ouais. Barrette m'a donné ça contre. Je vais vous le dire, je le trouve pas bête, là. Dis-moi ce que vous en pensez. Il dit, puis c'est j'en jasais avec d'autres personnes, ils ont dit, si on force les médecins à travailler ici au Québec. Parce que moi, au début, j'étais partisan de ça. Même affaire. Ça prend des mesures contraignantes. Ça n'a pas de bon sens comme société de payer des études de 200 000. Puis le gars s'en va travailler au Nouveau-Brunswick ou dans certains hôpitaux au Nouveau-Brunswick, c'est 100% québécois. C'est tous des médecins québécois. Ça n'a aucun bon sens. Même chose à Toronto dans certains départements. Sauf qu'on me dit, ça tenterait-tu de te faire opérer par quelqu'un qui est forcé à travailler là?
Regardez, là, ça, là, moi personnellement, je trouve que c'est de la bouillie pour les chats. C'est-à-dire que je trouve que votre raisonnement tient la route par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on investit, on te paye tes études, ça coûte une fortune.
Oui.
Il me semble qu'à quelque part, là, t'es redevable à la société de ton activité professionnelle un certain temps. Moi, je vais vous dire une chose. Un jour, il y a un médecin, un étudiant en médecine qui m'a dit ceci. Puis, et ça m'a jeté à terre. Puis par la suite, je pensais à ça, je me disais, ouais. Il n'y a pas tellement tard. Il me disait, ça veut dire ça, Jean-Luc, que nous autres, là, on est la seule profession où, au moment où on gradue, on nous donne un puits d'or, avec une brouette et une pelle, puis on dit, pelle, tant que tu voudras, il y en aura toujours de l'or. Il n'y a aucune autre profession que ça.
Non, il n'y a aucune limite.
Il n'y a aucune
check
limite.
Check a check, puis check
a check. Et oublions pas une chose, c'est que médecins, là, les médecins ont un pouvoir phénoménal là, dans le réseau de la santé. Parce que un directeur général d'un centre hospitalier, hein, on contrôle pas le volume. Le volume, c'est les personnes qui rentrent par l'urgence.
Ouais.
On contrôle pas c'est-à-dire, il y a les externes, il y a les rendez-vous, il y a l'acte médical, la durée de l'acte, la durée de séjour, les médicaments prescrits, le coût des médicaments. On contrôle pas les conventions collectives qui sont signées provincialement, hein. Mais on est responsable du résultat. Je vais vous dire, pour être DG d'un hôpital, il faut être un peu débile. Hein?
Pourquoi ça a marché en Rouyn-Noranda? Pourquoi vous avez eu le succès d'avoir en Rouyn-Noranda? Là, vous nous expliquez un peu les contraintes dans le réseau. Et vous avez souvent été cité comme modèle à l'époque où vous dirigez l'hôpital de Rouyn-Noranda. Ça a été quoi votre recette?
Ben, tout à l'heure, vous avez soulevé quelque chose de très, très important. Dans la philosophie de gestion que j'ai développée, le constituant numéro 5, qui est, entre autres, consultant, écoutant et impliquant notre monde dans une organisation, fait toute la différence du monde.
Okay.
Moi, ce que j'ai réussi à faire là-bas, j'ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les personnes qui travaillaient dans l'organisation qui ont réussi à faire ça. Hein? Et ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'à partir du moment où tu es capable d'aller à la pêche avec un médecin, puis tu es capable de lui dire, arrête de me charrier, ça n'a pas de bon sens, tu as fait un grand pas. Parce que là, ça veut dire que tu as développé un degré de complicité et, je dirais moi-même, d'amitié qui te permet de dire ça.
C'est donc, d'humaniser,
là. Faut ouais. que tu sortes du bureau, dans le fond, puis créer des liens, des contacts, puis jaser avec ces gens-là.
Écoutez, et oublions pas une chose, là. Les médecins, là, encore une fois, là, j'ai rien contre eux autres, là. Comprenons-nous bien, là. Sauf que pour démontrer l'autonomie qu'ils ont, l'indépendance qu'ils ont, combien de fois, moi, j'ai vu dans un hôpital, un spécialiste séduire 15 patients à 8 heures le matin. 15 patients à 8 heures le matin.
Pourquoi?
Tu passes à 3 heures dans l'après-midi.
Ouais.
Hein, tu passes à 3 heures dans l'après-midi. Non, mais ce que je veux mettre en perspective, je veux pas généraliser.
Mais pourquoi ils font ça, ceux qui font
non,
ça?
Non, mais je veux dire parce que le médecin a un statut un peu particulier et il peut définir à peu près n'importe quoi et il est pas tellement contesté. Ce qui explique le fait que, encore dernièrement, j'ai vu une de mes copines, hein, elle était séduite à 8 heures le matin pour un problème de hanche, elle est passée à 3 heures dans l'après-midi. Ça a-tu du bon sens? Y a-t-il un autre professionnel qui serait capable de faire ça dans quelques domaines que ce soit?
Et de garder sa clientèle?
Et de garder sa clientèle?
Aucun.
Non, mais juste l'exemple concret, là, t'as rendez-vous chez le dentiste. T'arrives à 8, tu passes à 3, qu'est-ce que tu fais?
Tu t'en vas prendre un autre dentiste. Puis, tu changes de dentiste.
Tu dénonces, tu chiales.
Mais là, on a pas le choix. Ouais, je comprends. Fait qu'eux autres, ils se cassent la tête, tout le monde à 8 heures, puis vous passerez quand ça va être l'heure.
Non, mais écoutez, puis elle a tout à fait raison. Puis, ouais. je veux dire, même un médecin de famille, en tout cas, un certain nombre de médecins de famille, on te dit à 7 heures, tu peux passer là à 8 heures comme rien. Hein? La semaine dernière, un directeur, un DSP d'un hôpital périphérique de la région de Montréal me racontait. Il dit, moi, là, cette année, j'ai 350 000 $ d'examens de laboratoire qui sont demandés dans la région de Montréal. Puis il dit, je m'arrache les cheveux. Le chef du département de laboratoire ne comprend pas la pertinence de tous ces examens. Et il peut pas rien faire.
Il sait pas c'est quoi, il sait pas pourquoi.
Il sait, mais...
Est-ce que...
Mais à partir du moment où tu commences à poser des questions, ce que les médecins vont te dire, hey, ça c'est de l'ingérence professionnelle. Non, mais tu sais,
Mais dans le fond, je vous écoute. Et ça, on parle d'imputabilité, d'être redevable, d'être plus performant, de checker les budgets. Moi, il y a ça rime privé dans ma tête.
C'est exactement ça.
Là, êtes-vous en train de nous dire que la solution, si on avait des hôpitaux privés ou, tu sais, on parle de service à la clientèle, là, puis d'être, c'est toutes des concepts dans le privé sont connus.
Voyez-vous, pour quelle raison un certain nombre de médecins s'en vont dans le privé? Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux publics, puis moi j'ai vécu ça là. Un chirurgien, par exemple, va dire, moi, j'opère pas le mercredi matin. Un autre va dire, moi, j'opère pas le jeudi après-midi. Un autre, un anesthésiste va dire, moi, là, le mercredi, je fais pas de bureau. C'est-à-dire, je ne suis pas à l'hôpital.
Pour X raisons.
Ils peuvent invoquer des bonnes raisons, mais, anyway, ça veut dire qu'à ce moment-là, ta salle d'op opère pas. T'es obligé de composer avec certaines situations. Et là, effectivement, les médecins qui, eux autres, ils veulent opérer, ils disent, écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais m'en aller dans le privé. Or, dans le privé, qu'est-ce qui arrive? Si vous allez voir un chirurgien dans le privé, à 7h30, il est on the spot.
Oui.
L'anesthésiste, il est là, on the spot, à 7h30.
Oui.
Puis le lit, là, il va tourner le lit. C'est-à-dire qu'il vous gardera pas dans son lit, lui-là, là, de façon indue. Il va s'organiser pour que ça tourne. Dans les hôpitaux, ben, malheureusement, on le voit, par exemple, le médecin va passer faire sa visite, je ne sais pas, moi, dans l'après-midi, il donne le congé, la personne, elle va dire, ben moi, ma fille a fini à 4h30, je suis pas capable de partir tout de suite. Bon, ben, c'est correct que vous partirez ce soir, tu sais. Donc, moi, ce que je dis, c'est que dans les hôpitaux, il faudrait d'abord qu'il y ait une espèce de politique à l'effet qu'à 10h le matin, les tests de laboratoire ont déjà été faits, et là, le médecin passe, et il libère le lit. Et je vais vous dire plus que ça, ce qu'il faudrait, bien, à Rouen, on avait fait ça entre autres, il y avait un coordonnateur, qui était un médecin, qui validait les périodes de consolidation des diagnostics. Par exemple, telle personne est dans tel lit depuis tant de temps, c'est-tu pertinent qu'elle soit encore là? Toi, t'es médecin, là, regarde, puis moi je suis le coordonnateur qui est un médecin, je peux vous poser des questions, vous dire, là, regarde, franchement, moi, je pense qu'elle pourrait être en lit de convalescence ailleurs, dans un autre département, on va libérer le lit, tu sais. Combien de fois on se ramasse à l'urgence, pas de lit, ces étages.
Mais qu'est-ce qui se passe en haut, ces étages? On sait pas. Mais il n'y a pas de lit. On sait qu'il n'y a pas de lit.
Il n'y a pas de lit.
Est-ce que les gens qui sont là en haut à coucher dans le lit ont vraiment d'affaires là? On sait pas. Moi, ce que je sais à mon niveau, c'est qu'il n'y a pas de lit.
C'est une bonne raison, ça. C'est parce que j'ai pas de lift, m'en retourner chez nous.
Non, mais voyez-vous,
J'ai pas de lift, m'en retourner chez nous.
On entend ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une meilleure rotation des lits. Une rotation vraiment efficace des lits. Puis il faut qu'il y ait des coordonnateurs qui s'occupent de ça. À l'urgence, en passant, vous êtes au courant de ça, qu'à l'urgence, il y a à peu près 70 % des personnes qui n'ont pas d'affaires là.
70 %?
Ah oui. Écoutez, toutes les ambulatoires, là, ils n'ont pas d'affaires là. Toutes les personnes qui arrivent là, sur leurs deux jambes, là, pour...
Mal de gorge.
Mal de gorge, puis tatatitatata, là, ben c'est la réalité.
Mais on ne pourrait pas les revirer?
Non, mais écoutez, puis la raison pour laquelle ils sont là, c'est quoi? Ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont pas de médecin.
Fait qu'ils vont
quand j'entendais le docteur Bolduc, il n'y a pas longtemps, répondre à un journaliste qui lui posait cette question, qui était de dire, ouais, mais écoutez, monsieur le ministre, il y a 1,5 million de personnes actuellement qui n'ont pas de médecin. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il aurait répondu, ils ont juste allé à l'urgence. Méchant problème.
Alors là, t'envoies à l'urgence des gens qui n'ont pas d'affaires, là. Tu admets l'échec, compte tenu du fait qu'il manque de médecins au Québec, puis l'accessibilité. Tu le dis d'aller à l'urgence, ce qui va... Puis là, à un moment donné, quand on va te demander pourquoi il y a des problèmes à l'urgence, le même ministre va dire, c'est parce qu'il y a du monde qui n'ont pas d'affaires, là. Mais d'un autre côté, c'est ça, je comprends.
Donc, première solution, là, il faut absolument qu'il y ait une meilleure rotation des lits dans les hôpitaux. Peu importe la nature de l'hôpital, ça, il faut que ça se fasse. L'autre affaire, nous, à Rouen, on avait inventé une maison de transition. C'est-à-dire que quand, par exemple, un patient avait besoin d'une période de convalescence un petit peu plus longue, sous la supervision
d'un médecin
ou d'infirmière, ben on le sortait de l'hôpital. Puis là, on s'est organisé avec une organisation à but non lucratif, qui eux autres les accueillaient. On leur fournissait certains effectifs, notamment les infirmières. Et là, ben, les personnes étaient là en transition.
Et là, on gardait les lits pour les cas urgents, on se garde un lousse.
C'est ça. Maintenant, à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait avec toute la panoplie de personnes qui arrivent? Moi, ce que je dis, c'est pas trop compliqué, donnons plus de pouvoir aux infirmières. Vous êtes au courant de ça qu'il existe des infirmières praticiennes?
Qui ont le droit de pratiquer certains actes médicaux?
Oui, au-delà de 100. Hein? 100. Ça, là, ce concept-là vient de Rouyn-Noranda, hein, du CLSC, en collaboration avec l'hôpital.
OK.
Les infirmières praticiennes. Or, on a travaillé, je sais pas combien d'années, avant d'être capable de faire comprendre la pertinence de ça, notamment au Collège des médecins.
Parce qu'eux autres, ils voulaient pas.
Non,
ils
voulaient pas.
Le chasse-gardée,
ils voulaient pas. Puis... D'ailleurs, les médecins, hein, quand on parle, par exemple, de tous les autres professions, notamment des... voyons, les mères là, qui accouchent, là,
les sages-femmes.
Ouais. Les sages-femmes, oui. Hein, les sages-femmes. Combien ça a pris de temps avant d'être capable de leur faire accepter ça? Les chiro, combien ça a pris d'années avant qu'on réussisse à le faire accepter?
Il y a du corporatisme, il y a des réflexes corporatistes d'essayer de protéger un peu leur pouvoir puis tout. Mais...
L'acupuncture, la même affaire. Si vous regardez ce qui se passe pour les paramédics actuellement en Ontario, ils ont le droit de faire une foule d'actes médicaux. Au Québec, on n'a pas le droit.
Ben, je recevais hier Dr. Jean Drouin dans mon émission, puis lui dit qu'en Ontario, les médecins peuvent prescrire des produits naturels, tout ça, ici, pas le droit.
Exact. Alors, moi, ce que je dis, entre autres, les infirmières praticiennes, là, en Ontario, il y en a actuellement 800 pour 12 millions d'habitants. Au Québec, ça veut dire qu'il nous en faudrait 500. Actuellement, il va en sortir 35 cette année, 35 l'année prochaine.
Ça, c'est une aubaine parce que ça coûte bien moins cher, c'est bien moins long. Ça, c'est bien moins long. Ça, c'est moins long à former, ça coûte moins cher. Et évidemment, on s'attend pas à ce qu'ils fassent des transplantations cardiaques, mais ils vont poser des gestes médicaux plus petits. Qui sont
assez très importants, là.
Oh, oui.
Je vais vous dire, écoutez, il y a 100, à peu près 100 médicaux et actes médicaux qui peuvent faire par délégation, autorisés par le collège, là. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Or, actuellement, c'est ça que je disais. Donc, en passant, ça me fait penser. Eux autres, là, pour les former, ça prend 2 ans. Un médecin, ça prend 10 ans.
Ben, c'est ça, là.
Donc, formons des infirmières praticiennes. Hein? Une infirmière praticienne, ça prend 2 ans. Actuellement, écoutez bien ça, on donne 30 000 $ par année en bourse pour que des personnes qui sont infirmières cliniciennes, qui sont bachelières, deviennent praticiennes.
Okay.
C'est l'équivalent d'une maîtrise. Sauf que, à la sortie, le salaire qu'on leur donne, c'est ridicule. Le salaire d'une clinicienne actuellement, c'est 70 000, à peu près. Une praticienne, c'est 12 000 de plus, à peu près. Ce qui représente 6 000 net.
Ah, vas-tu perdre 2 ans de sa vie aller aux études pour 6 000 de plus par année?
Pensez-y une seconde.
Il y en a qui vont le faire,
c'est ça. Or, vous êtes au courant de ça qu'en 97, il est sorti 4 000 infirmières du Québec, hein?
Oui.
D'ici les 3 prochaines années, il va en sortir 15 000. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est l'ordre. Ils ont fait un sondage. Il va sortir 15 000 infirmières.
La fameuse saignée de Lucien Bouchard puis de Pauline Marois dont on parle tant, ça nous a coûté 7 000 infirmières.
Ouais.
Et là, dans les 3 prochaines années, c'est le double.
Oui, écoutez, j'ai un communiqué ici, là, qui vient de l'ordre. Hein? On nous dit, là, qu'écoutez, on dit, il y en a sorti 4 000 en 97. On n'a rien vu. Elles seront 15 000 à prendre leur retraite d'ici 3 ans.
C'est 4 000 en
97. 4 000
là,
en 97. 15 000. Là, 15 000.
Presque
4
fois.
Là, non, mais, tu sais, il y en a qui dorment au gaz.
Ouais.
Hein,
on se rend pas compte de ça.
Tu sais, moi, je trouve que le ministre, là.
Voyez-tu bon, Bolduc? C'est une de mes questions.
C'est un super de bon bonhomme.
Ouais.
Il a fait des choses incroyables, dans les hôpitaux où il a travaillé. Sauf que, moi, ce que je dis, il va falloir qu'un ministre mette ses culottes. Pas à peu près, pour être capable d'encadrer davantage l'activité médicale, puis effectivement donner plus de pouvoir, notamment, entre autres, aux infirmières praticiennes et aux infirmières cliniciennes. Les infirmières cliniciennes, là, hein, quand par exemple vous arrivez à l'urgence, une infirmière clinicienne,
oui,
qui est là depuis 15 ans, pensez pas là, qu'elle n'a pas un bagage de connaissances suffisant pour être capable de dire, écoutez, vous avez une otite, là. Puis ce qu'il faudra faire, c'est à l'affaire. Pour être capable de dégager les médecins pour les cas les plus urgents.
Attends, moi, vous donner un exemple récent de la dernière fois que je suis allé à l'urgence, je m'étais fendu à la tête, OK? Fait que j'ai une coupure. Alors, je suis allé à l'urgence me faire coudre. Sincèrement, là, une infirmière aurait pu me regarder, voir que j'ai une petite fente, puis me recoudre, mais ça a pris un médecin. Là, ben, le médecin, il a fait quoi, dans le fond? Il a fait. Je suis convaincu que l'infirmière aurait été capable de me coudre, là, voyons donc. En me posant deux, trois questions, est-ce que tu es étourdi? Non, effectivement, je ne l'étais pas. Donc, tu vois un peu s'il y a des symptômes, là. Un infirmier aurait pu faire ça.
Non, mais écoutez, là.
Faire des points
moi,
de suture.
Je suis convaincu. Il s'agit de regarder le nombre, j'ai ça ici, le nombre d'actes médicaux que les infirmières peuvent faire. C'est hallucinant.
Mais ils le font pas.
Les infirmières praticiennes. Je parle des infirmières praticiennes. Puis même parce les infirmières cliniciennes. Non, mais les infirmières cliniciennes, ils pourraient faire plein de choses.
Des points de suture.
Il s'agit tout simplement de leur donner le pouvoir.
Mais c'est qui bloque
qu'ils
tout
l'ont
ça?
Pas le pouvoir.
C'est le collège des médecins.
Ouais, mais pourquoi c'est...
Ben, mais parce que c'est leur, parce que c'est à eux autres.
C'est une espèce de chasse gardée. Mais puis moi, je me dis, ils pensent-tu qu'ils vont manquer d'ouvrage? Ben non, regarde là. Le vieillissement de la population, plus que ça va, plus qu'on va avoir besoin de médecins. Là, en réalité, on est à minuit moins une. Hein? C'est ça la réalité. D'ici 3 ans, il va y avoir un nombre impressionnant d'infirmières qui vont s'en aller. Les médecins, de plus en plus, ils vieillissent.
Oui. Hein?
Il y a 21% des médecins de McGill qui s'en vont à l'extérieur. Ça, c'est à part des autres facultés, des autres universités. Tu sais, il y a un recadrage phénoménal à faire. Puis moi, ce que je dis dans le réseau de la santé, on devrait faire, je dirais, l'effet domino. C'est-à-dire que les médecins donnent plus de pouvoir aux praticiennes. Les praticiennes, on donne plus de pouvoir aux cliniciennes. Les cliniciennes, on en donne plus aux auxiliaires. Puis les auxiliaires, on en donne plus aux préposés. Quitte à faire former les gens, hein, sur un délai plus court, avec une plus grande intensité. Mais écoutez, ça n'a pas de bon sens.
Mais là, chacun se chicane pour garder son petit bout de terrain, son petit bout de corps et de sable un peu. Ça, c'est à moi, c'est mon terrain. Puis si tu rentres, n'oublie pas qu'ils sont payés à l'acte. Tantôt, José se demandait que s'ils perdent certains actes médicaux, il y a moins de chick-a-chick là-dessus. Là. Alors, il y en a qui,
mais
même si je suis d'accord...
il n'y a pas de conscience sociale là-dedans. C'est ça que je trouve un peu dommage.
Mais ils n'auront pas le choix. Moi, je pense que non. La conscience sociale, souvent, tu te la fais imposer devant les événements. Puis là, on est rendu long.
Non, mais ce qu'on comprend bien, c'est que les médecins, là, moi, dans mon livre à moi, ils font un job incroyable. Moi, je pense qu'on a des super de bons médecins. Où j'en suis, c'est sur le contrôle de l'acte médical. Il n'y en a pas. Je veux pas dire qu'ils sont pas... Je veux surtout pas qu'on pense que je pense qu'ils sont malhonnêtes. Sauf que dans n'importe quel système, quand tu n'as pas de contrôle,
exactement,
peu importe qui...
Le citoyen le plus honnête au monde.
On peut-tu imaginer qu'il peut avoir quelque part quelques dérapages?
On vous donne un exemple
bien,
demain matin.
Ou bien, non, mais attends un peu.
Oui.
Ou bien, si ce n'est que de la pertinence de l'acte.
Exact. Mais demain matin, là, moi, mon boss me dit, Butch, c'est toi qui décides de ton salaire, mais n'importe quoi. Ça se peut-tu que j'en mette un peu trop? Ça se peut-tu que je sois pas exactement juste? Pourtant, je me considère un gars honnête. Mais sincèrement, si Jean-Paul me donne un chèque en blanc, puis il dit, mais n'importe quoi, moi, te payer. N'importe quoi, Butch. Puis je surveillerai pas ton travail pendant un an. Peut-être que, moi, tenter de peser sur le crayon un peu, puis de mettre un montant. C'est un peu ça qu'on dit, là, sans être malhonnête.
Surtout si tu veux tous tes autres collègues qui font pareil.
Ben
là,
oui.
Tu vas te dire, pourquoi moi, je serais le seul à,
José a mis 500 000. Moi, je veux bien mettre 500 000.
Mais tu sais, c'est, écoutez, là.
Je comprends.
C'est humain, là, la patente.
Oui.
C'est juste ça. Actuellement, je ne sais pas si vous avez vu les reportages à la télé dernièrement, il y a des endroits, il y a des hôpitaux là où, entre autres, aux soins intensifs, on manque de lits parce qu'on n'a pas de personnel. Puis il y a d'autres endroits, on a du personnel, mais on n'a pas de lits. C'est le monde à l'envers. Les DG, là, en passant, les DG, je dois vous dire une chose, c'est une catégorie de personnes qui sont très mal payées. Très mal payé. Je vais vous donner l'exemple suivant.
C'est quoi, 120, 130?
Non, mais attendez un peu. Un DG qui gère 1200 employés. Là, je parle pas des médecins, là. Je parle juste des employés, OK? Il y a tout le staff médical des médecins en plus, là. 1200 employés avec un budget de 60 millions par année qui est ouvert 24 heures par jour, 365 jours par année, va gagner maximum 134 000 piastres. Alors qu'un directeur de caisse qui gère 160 employés, va gagner 210 000 pièces, qui est ouvert 5 jours semaine. Et dans un hôpital, s'il y a un scandale, n'importe quoi, là, une infection, je sais pas trop quoi, hein, qui est le premier on the spot, puis avec les micros, puis avec les...